Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, au micro Idrissa Sédoudia, bonjour. Les dirigeants de la CEDEAO ont suspendu hier la Guinée de l'organisation ouest-africaine à la suite du coup d'État militaire de dimanche, mais ils se sont gardés de mesures économiques en attendant l'envoi d'une mission diplomatique. Nous y reviendrons dans quelques instants. Au Maroc, le PJD, parti islamiste modéré à la tête du gouvernement depuis une décennie, a subi une véritable déroute au profit de partis libéraux considérés comme proches du palais royal lors des élections législatives de mercredi, selon des résultats provisoires annoncés tôt ce matin. Le parti de la justice et du développement s'effondre, passant de 125 sièges dans l'assemblée sortante à 12. Loin derrière ses principaux rivaux, le Rassemblement national des indépendants, le parti Authenticité et Modernité et le parti de l'Istiklal. En Algérie, un tribunal a placé en détention provisoire 22 membres présumés du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, un groupe séparatiste considéré comme terroriste par les autorités, ont indiqué hier une ONG et des médias. La police avait annoncé l'arrestation de 27 personnes lundi et les autorités avaient parlé d'une affaire d'atteinte à l'unité nationale, à l'ordre public et d'incitation à un attroupement. En Éthiopie, au moins 125 civils ont été tués début septembre en Amhara, région du nord de l'Éthiopie, gagnée par le conflit qui fait rage au Tigré voisin, selon des médecins locaux, un massacre attribué aux rebelles tigréens qui ont catégoriquement rejeté toute responsabilité hier. Human Rights Watch a dénoncé ce mercredi des cas d'abus notamment sexuels, demande de faveurs sexuelles ou de l'argent à certaines femmes lors de distributions d'aide alimentaire dans le nord-est du Mozambique, région en proie à une grave crise humanitaire engendrée par l'insurrection djihadiste qui dure depuis presque 4 ans. 10 personnes ont trouvé la mort hier soir en Macédoine du Nord dans un incendie consécutif à une explosion dans une unité COVID-19 de Tetovo, ont annoncé les autorités de ce petit état des Balkans en déplorant les vies perdues. COVAX a revu à la baisse ses prévisions, n'espérant désormais plus vacciner que 20% de la population des pays pauvres contre le COVID d'ici la fin de l'année, soit bien en deçà de ses ambitions initiales. Je ne resterai pas silencieux lorsque les entreprises et les pays qui contrôlent l'approvisionnement mondial en vaccins pensent que les pauvres du monde doivent se contenter des restes. Par ces propos, le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a demandé une nouvelle fois hier que les personnes vaccinées contre le COVID-19 ne reçoivent pas de doses de rappel afin que les fioles soient envoyées dans les pays pauvres qui n'ont pu immuniser qu'une infime partie de leur population. En Allemagne, où il a eu hier une réunion virtuelle avec ses partenaires de 20 pays, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a averti le nouveau gouvernement taliban, qui comprend la vieille garde talibane et aucune femme, qu'il devrait gagner sa légitimité auprès de la communauté internationale, que les États-Unis ont mobilisé mercredi pour offrir une réponse coordonnée à la crise afghane. L'administration Biden a affirmé hier que le soleil pouvait produire 45% de l'électricité dans le pays d'ici 2050 et jouer ainsi un rôle majeur dans la lutte contre le changement climatique à condition d'accélérer vivement les investissements dans l'énergie solaire. Après plusieurs années de tensions focalisées sur le passé esclavagiste des États-Unis, le plus important monument dénoncé comme un symbole raciste dans le pays a été déboulonné hier à Richmond en Virginie. La gigantesque statue du général Robert E. Lee, l'ancien commandant des sudistes pendant la guerre civile de 1861 à 1865 face aux nordistes qui avaient aboli l'esclavage. suite de nos informations, la CEDEAO suspend la Guinée de l'Organisation Ouest-Africaine et décide d'envoyer une mission à Conakry. C'est l'une des conséquences du putsch qui a renversé dimanche le président Alpha Condé. Les réactions à Conakry avec notre correspondant Zakaria Camara.
L'institution sous-régionale demande la libération immédiate d'Alpha Condé. Sa décision de suspendre la Guinée est bien accueillie par Mohamed Kaba, analyste de l'actualité.
Vous voyez l'humiliation que le président Alpha Condé a subie avec son mode vestimentaire. Je crois que c'est des choses qu'il faudra arrêter aujourd'hui en Afrique francophone. Les coups d'État, non aujourd'hui. Donc la CEDEAO est vraiment dans une logique vraiment de sanction du pays. C'est ce qui a été fait évidemment aujourd'hui. On doit accepter que le président achève leur mandat. On ne peut pas continuer à arrêter les présidents en Afrique francophone. Je soutiens mordicus sur cette position de la CEDEAO qui certainement pourra freiner et d'autres putschistes en Afrique francophone.
Le chef de la junte a promis de rendre le pouvoir aux civils sans donner plus de précisions sur la durée de la transition. Pour Emmanuel, cette sanction est une double peine.
Je pense que la Guinée est suffisamment sanctionnée avec déjà la rupture de l'ordre constitutionnel elle-même. Les conséquences en tant que telles ne seront pas forcément très grandes parce que la CEDEAO, il faut le reconnaître, est une institution qui va aussi être présente aux côtés de la Guinée dans le processus de transition qui va aboutir au rétablissement de l'ordre constitutionnel. Donc ce qui est fait maintenant relève du classique, mais ça ne veut pas dire forcément que la Guinée est complètement isolée et que le pays va forcément souffrir de cela.
D'autres Guinéens rencontrés à Conakry ont accepté de s'exprimer au micro de la VOA.
La CEDEAO a intérêt à revoir leur façon de faire parce qu'aujourd'hui, c'est une génération consciente qui est capable, qui est apte à relever le défi qu'il y a dans les pays africains. On n'est plus dans les années 40 ou 50 où ce sont les vieux dictateurs qu'il faut écouter, qui dictent la conduite à tenir.
Bon, je pense que la CEDEAO est tombée dans son propre piège. Parce que vous savez, tout récemment, il n'y a même pas un an, que nous avons organisé les élections du 18 octobre. Il y a eu ici des morts, la CEDEAO a été saisie, il y a eu à chaque fois des recours envers la CEDEAO. C'est la CEDEAO même qui est venue ici valider les élections en disant que c'est Dieu qui donne le pouvoir.
Bon, je pense que la CEDEAO, toujours, il vient en retard pour parler de condamnations et autres. Mais sinon, la CEDEAO connaît que déjà le président qui était là, ce n'est plus le président que le Guinéen aimait. Parce que le 10 ans était fini, il a fait un autre, il a brigué un autre que le Guinéen ne voulait pas.
Une mission de la CEDEAO doit se rendre à Conakry pour des discussions avec les militaires au pouvoir. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Pour une analyse de la décision de la CEDEAO sur la Guinée, Eric Manirakidza a joint à Dakar l'analyste Ibrahima Khan.
Alpha Condé n'avait pas que des amis au sein de la CEDEAO. Il avait beaucoup d'inimités avec un de ses voisins. Et en plus, la question du troisième mandat qui était au cœur de la crise politique en Guinée était aussi un sujet que occupait un certain nombre d'entre eux. Donc l'un dans l'autre, je pense que la CEDEAO a trouvé le meilleur moyen de tourner la page de la présidence de Alpha Condé en demandant simplement qu'une transition soit organisée assez rapidement pour remettre le pays dans un cadre constitutionnel normal. Et je pense d'ailleurs que c'était le seul moyen parce que ces militaires-là qui ont pris le pouvoir ont maintenant pratiquement fait accepter leur fait par l'armée de manière générale et les autres corps de la société guinéenne. Donc retourner au système Alpha Condé aurait été vraiment une autre difficulté encore pour eux.
La Guinée est suspendue des organes de décision de la CEDEAO. Est-ce qu'il y aura-t-il des effets quelconques sur l'action du gouvernement de Conakry qui va être mise en place?
Pour le moment, cette suspension, elle est symbolique. C'est-à-dire, c'est de montrer que quelque chose d'anormal a eu lieu en Guinée au plan politique, au plan constitutionnel, et qu'on ne peut pas continuer à considérer la Guinée comme un pays où rien ne s'est passé. Donc la suspension des instances, ça veut dire que la Guinée ne participe plus aux réunions de la CEDEAO, ne peut plus nommer des candidats au poste au niveau de la CEDEAO, etc. Le deuxième niveau de sanctions, c'est les sanctions au niveau économique. Alors, vous savez que dans ce qui a été décidé, il y a aussi l'envoi d'une mission en Guinée pour discuter avec les putschistes, d'abord régler le cas de Alpha Condé, mais ensuite avoir une idée claire de comment la transition va être organisée. Et la CEDEAO a décidé de se retrouver après avec cette mission, qui sera certainement au niveau des chefs d'État, pour discuter à candidature en ce qui concerne la Guinée. Et je pense que c'est à ce niveau, éventuellement, si les choses se passent pas très mal, qu'une décision de sanction à caractère économique pourrait être prise, ou en tout cas, on pourrait corser les mesures de sanction, même politiques. Mais je pense qu'on n'est pas encore là, et ce que la junte a montré depuis dimanche donne clairement à croire et à espérer que la CEDEAO n'arrivera pas à ce niveau-là et que bon, les gens vont s'organiser pour non seulement concilier les Guinéens, mais pour aussi décider rapidement des différentes étapes de la transition. Et ça, je pense que ça pourrait facilement amener la CEDEAO à considérer que le cas guinéen est maintenant bien géré et que bon, on peut avancer vers de meilleures relations avec le pays.
C'était joint à Dakar l'analyste Ibrahima Kan. La Minute Éco, Rosine Mounezer.
En Côte d'Ivoire, le tarif de vente du cacao pourrait chuter durant la campagne 2021-2022 qui doit débuter en octobre prochain. L'agence Ecofin cite des sources proches du conseil du café cacao disant que le kilogramme de fèves est attendu entre 825 et 850 francs CFA contre 1000 francs CFA un an plus tôt. Des observateurs estiment que le tarif de 1000 francs CFA par kilo est fixé en 2020 et 2021. N'a pas été suivi à cause de la baisse de la demande due à la pandémie de coronavirus. La Tanzanie a obtenu un prêt de la Banque mondiale pour développer son infrastructure télécom. Le gouvernement veut améliorer la connexion au débit pour plus de 75% de la population. Le ministère tanzanien des technologies de l'information a confié à la Tanzania Telecommunications Corporation Limited l'extension de l'infrastructure nationale de la fibre optique. Le ministre Faustin Dugulile a déclaré que le haut débit est un incontournable dans la quatrième révolution industrielle qui implique le blockchain, les drones, l'Internet, l'intelligence artificielle et plus encore.
Merci Rosine. Et maintenant les sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Le milieu de terrain français d'origine angolaise Eduardo Camavinga a été présenté hier comme nouveau joueur du Real Madrid. Présent avec ses parents et ses frères et sœurs, Eduardo Camavinga a ensuite posé avec le président du Real, Florentino Pérez, avec un maillot floqué de son nom et du numéro 25, avant que toute sa famille ne les rejoigne sur scène pour immortaliser l'instant. Le jeune milieu international français, transféré de Rennes, est arrivé en France en provenance de l'Angola avec ses parents quand il avait 2 ans. Il se souvient encore de ces moments et en fait sa principale motivation quand il est sur le terrain.
Oui, je pense que ça m'a inculqué quelques valeurs. Mes parents ont fui la guerre. Bon, ça m'a donné des valeurs que j'essaie de redonner sur le terrain. Après, c'est ma famille. Quand je joue sur le terrain, je joue pour eux. Et je pense que inconsciemment, le fait d'avoir vécu des galères, ça m'a permis de prendre des forces.
Eduardo Camavinga, nouveau joueur du Real Madrid. Prenons à présent la direction du Lesotho dans ce pays du sud de l'Afrique. Nous allons explorer l'histoire inspirante d'une jeune fille dans un village. Elle s'appelle Hutalank Leuta. Elle a appris par elle-même à faire du vélo pour devenir plus rapide que les garçons de son village, Roma et de tout le Lesotho. Maintenant, contre toute attente, elle est prête à affronter le monde au championnat du monde Red Bull UCI Pump Track 2021 au Portugal en octobre prochain. Suivez. Hutalank Leuta slalom sur cette piste de pump track dans sa ville natale Roma, à 34 km de Maseru, la capitale du Lesotho, un royaume de haute altitude encerclé par l'Afrique du Sud. Ici, il n'est pas typique de voir des femmes faire du vélo, mais depuis qu'une piste de pump track a été construite en 2017 à Roma, Leuta est fascinée et profite pleinement de sa passion.
Oh yeah, I loved riding the moment.
J'adore rouler. C'est pourquoi je me dis que je n'arrêterai jamais de faire du vélo parce que je peaufine mon talent et personne ne m'a dit comment le faire.
No one taught me how to do it.
Léouta, qui s'appelle affectueusement la mère de la piste de pump track, a appris elle-même à monter dans le tas. Elle n'avait pas de vélo et devait marcher jusqu'à la piste et emprunter les vélos du club pour s'entraîner. Aujourd'hui, elle profite de l'équipement moderne mis à sa disposition et encourage d'autres enfants qui viennent faire du vélo et veulent lui ressembler. En 2019, Léouta a remporté la course nationale pump track du Lesotho devant de jeunes garçons tout aussi talentueux. Ce résultat lui permet d'être la représentante de son pays au prochain championnat du monde Red Bull UCI pump track prévu à Lisbonne, au Portugal, du 15 au 17 octobre prochain.
Merci, Yacouba. Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie, Idrissa Sebuya. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Les dirigeants de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest ont donc suspendu la Guinée de la CEDEAO à la suite du coup d'État militaire de dimanche et décidé d'envoyer une mission diplomatique à Conakry. Les putschistes, dirigés par le colonel Mamadi Doumbouya, on dit avoir fait le putsch pour mettre fin aux dérives du régime du président Alpha Condé. Joint ici à Washington par Yacouba Ouédraogo, Leila Ndiaye, spécialiste en politique africaine, estime que c'est juste un coup d'État militaire qui a mis fin à un coup d'État civil.
Ce qui m'a surprise, c'est surtout la rapidité de l'opération qui était déconcertante. Aussi, je ne m'attendais pas à un coup d'État militaire, surtout venant d'une personne proche du président déchu.
Est-ce qu'il y a eu des prémices selon vous?
Bien évidemment, il y a eu des prémices. Nous avons tous assisté à ce qui s'est passé en 2020 avec le changement de constitution. Certains ont critiqué le régime du président déchu et lui-même qui a eu son image ternie après l'élection de son troisième mandat. Certains aussi critiquaient certaines dérives autocratiques et autoritaires du régime. Et tout ça a conduit à ce que nous avons tous observé dimanche, c'est-à-dire la prise du pouvoir par les militaires, donc un coup d'État militaire qui a renversé, si vous voulez, un coup d'État constitutionnel parce que beaucoup d'observateurs considéraient le troisième mandat, c'est-à-dire même pas le troisième mandat, je dirais même la réforme de la Constitution en mars 2020 comme un coup d'État civil, un coup d'État constitutionnel. Donc en somme, c'est un coup d'État militaire qui vient renverser un coup d'État civil.
Est-ce que vous fondez beaucoup d'espoir dans cette junte militaire?
Écoutez, l'unité spéciale, défense spéciale, avec à la tête le lieutenant Doumbouya, le lieutenant colonel, il s'est exprimé. Nous avons écouté un peu ses premières interviews. Il a rassuré les populations sur leur profond désir de rassembler les Guinéens, de ne pas faire de chasse aux sorcières. Cependant, il faut noter que le contexte politique est très tendu et une crise de pouvoir par la force l'augure en général rien de bon, je dirais, ouvre la porte à une période d'instabilité. Le seul avenir nous le dira.
On se rappellera justement que Dadis Camara avait aussi suscité beaucoup d'espoir.
Exactement. Donc, l'instabilité n'est pas exclue.
Quelles sont vos ententes, justement, par rapport à la transition?
Que toutes les forces vives de la nation se concertent, qu'il y ait une concertation nationale, qu'il n'y ait pas de chasse aux sorcières, que le président de la République, l'ancien président, le président des chutes, soit libéré, comme le demande la CEDEAO, bien sûr, sans condition et immédiatement, et qu'on passe à une autre étape, c'est-à-dire celle de l'apaisement et celle de la reconstruction de cette Guinée-là, qui aujourd'hui est en rupture totale avec les autorités.
Leila Ndiaye, spécialiste en politique africaine, jointe ici à Washington.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'une des premières annonces phares du nouveau pouvoir militaire en Guinée a été de rassurer les investisseurs étrangers sur le respect des contrats miniers actuels. Ils ne seront pas touchés. Le pays, riche en minerais, est l'un des plus grands exportateurs de bauxite du monde. Cette matière essentielle dans la production d'aluminium a atteint mercredi un nouveau record. Mais pour l'économiste et ancien ministre guinéen de l'économie et des finances, Ousmane Doré, la forte demande mondiale en est la principale cause. Joint ici à Washington par Abdelrahman Dia, le docteur Ousmane Doré.
Le secteur minier, il semble être quasiment dans sa trajectoire d'embellie. D'ailleurs, les autorités de la junte ont été très claires. Les mines peuvent continuer à évoluer, aucune mesure restrictive et les frontières maritimes permettent des produits bauxitiques. Tout ça, c'est laissé comme tel. Donc, nous n'entrevoyons pas une sorte de dislocation qui pourrait venir brander le marché, bien que la Guinée soit le deuxième exportateur de ce produit.
Ce mercredi, le prix de la bauxite a atteint, nous dit-on, un niveau record en 13 ans. Vous pensez que c'est lié à une certaine frilosité du marché après le coup d'État?
Non, écoute, il y a une tendance globale sur le marché des matières premières et c'est une tendance qui d'ailleurs a été observée en 2020, curieusement pendant la période de pandémie. Et ceci est dû à plusieurs facteurs réellement. C'est-à-dire que, oui, la Guinée est prépondérante, mais beaucoup de ces métaux et autres, les négociations ont eu lieu par anticipation. C'est-à-dire qu'on sait, par exemple, qu'avec les Chinois, les quelques 60 à 70 millions de tonnes qui sont prévues d'être exportées, c'est déjà engagé dans des contrats futurs. Ça, c'est un des éléments. Et l'autre élément, c'est la forte demande aussi. On est en train de, dans le monde des anticipations ici. Les prix, si vous êtes un acteur sur le marché de la bauxite ou de l'aluminium, vous allez faire une sorte de prévision à moyen ou long terme, basée sur des indicateurs comme ce qui se passe en Guinée. Et là, en ce moment, oui, il est possible que cet investisseur puisse penser qu'il y aura un dérangement du marché.
Vous pensez que ce serait peut-être de courte durée, vous pensez?
Oui, moi je pense que, d'abord la transition, il y a encore une incertitude là qui plane sur la durée de la transition. Mais vous savez, pour les métaux précieux, il faut les voir dans le long terme.
Le docteur Ousmane Doré, ancien ministre guinéen de l'économie et des finances, joint ici à Washington.
Mandia avec vous dans Washington Forum cette semaine, la chute du président Alpha Condé en Guinée et les coups d'État en Afrique. Troisième putsch dans la sous-région depuis le mois d'avril, il intervient moins d'un an après qu'Alpha Condé a rempilé pour un troisième mandat controversé. La Guinée se dirige donc vers une nouvelle transition militaire. Et quels sont les chantiers des nouveaux maîtres de Conakry? Pourquoi assiste-t-on à un retour des coups d'État en Afrique de l'Ouest? Comment garantir la stabilité institutionnelle en Afrique? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Mali, mission d'évaluation de 3 jours d'une délégation de la CDAO conduite par le médiateur ouest-africain, l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan. Cette mission s'inscrit dans le cadre de la mise en application des recommandations formulées par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation sous-régionale tenue le 19 juin 2021. Le leader religieux de Nioro, Mohamed Aïdara, invité pour la circonstance, plaide pour une prorogation du délai imparti à la transition malienne. Quel peut être l'impact de ce plaidoyer du shérif de Nioro au moment où l'immixtion du religieux dans le domaine politique est tant décriée? Une des questions posées par Modibo Dambélé à Youssouf Sissoko, directeur de publication du journal La Sentinelle.
Le shérif, d'abord, c'est un chef religieux. Il est à la tête du groupe Amali. Donc, le shérif est dans son rôle parce que pratiquement l'aspiration d'un plus grand nombre de Maliens, ils pensent aujourd'hui que les hommes politiques ayant peut-être mal géré le pays, il faut donner le temps en tout cas à ces militaires-là de poser les jalons du Mali croate. Je crois que c'est normal parce que nous sommes dans une situation très grave. Donc, il faudrait quand même que nous ayons un peu de temps pour sécuriser le pays, pacifier un certain nombre de zones pour pouvoir organiser les élections au moins. Maintenant, le shérif, il a émis un vœu. Les émissaires de la CEDEAO doivent justement transmettre ce message-là aux autres présidents de la CEDEAO.
À l'instar des critiques qui ont été formulées à l'endroit des religieux sur la scène politique, quels peuvent être les dangers d'une telle immixtion du religieux sur la scène politique?
Au Mali, les religieux ont toujours joué un rôle déterminant sur la scène politique. Hein. Nous nous rappelons quand même qu'en 2013, ils ont joué un très grand rôle pour, dans l'élection en tout cas du président Ibeka. Le Mali est un pays à vocation presque musulmane. C'est vrai, la laïcité est une réalité. Il n'y a vraiment pas de risque que les leaders religieux émettent souvent leur avis par rapport à telle ou telle question. Mais là, c'est là peut-être à penser qu'ils vont peut-être influencer peut-être le vote. Je ne crois pas que cela soit réel. En fait, il faudrait quand même comprendre les leaders religieux parce qu'ils sont avant tout des Maliens. Donc, ils appartiennent à des associations de la société civile. Et nous savons tous que dans une démocratie, la société civile a un très grand rôle à jouer. Moi, je ne vois vraiment pas de mauvais que les chefs religieux émettent leur avis.
Est-ce qu'on pourrait encore les accuser de s'immiscer de la gestion de la vie politique malienne?
D'abord, au-delà de son chapeau religieux, c'est un leader d'opinion. Puisqu'il a derrière lui, en tout cas, un certain nombre de Maliens, des gens qui se reconnaissent à lui. Donc, on l'invite à un tel débat. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'inconvénient à ça.
C'était Youssouf Sissoko, directeur de publication du journal La Sentinelle.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
Le monde culturel africain en deuil, Alain Amobe Mévégué est décédé hier en France à l'âge de 53 ans. Producteur audiovisuel depuis plus de 20 ans, il a produit et animé des programmes sur de très nombreux médias français. En 2020, il fonde One, une plateforme de promotion des initiatives de l'Afrique et de la diaspora. Arzuma Compaoré a recueilli la réaction de Maury Touré, promoteur de la web radio, Radio Africa, et cofondateur du projet One avec Amobe Mévégué.
Au départ, je ne voulais pas croire jusqu'à ce que mon collaborateur avec qui, Alain Mévégué, on avait fait ce gros projet qu'on a appelé One, depuis deux ans, c'est ce grand événement chaque 25 mai qu'on fait, qui réunit plus de 200 artistes africains. Je suis cofondateur avec plein d'autres jeunes d'Afrique et de la diaspora. Et je disais tout à l'heure à quelques collaborateurs, je me demandais est-ce qu'on aura les épaules larges pour combler déjà le vide de ce projet qui était vraiment important pour nous, parce qu'à chaque fois, pendant les deux éditions de One, on se parlait parce que tous les jours, ils disaient il faut qu'on laisse quelque chose de grand. Il faut qu'on laisse quelque chose pour la postérité. Je ne sais pas si on pourra être fort pour combler ce vide.
Qu'est-ce que vous retenez de l'homme, de Amobe?
Il y a deux mots qui caractérisent ce monsieur, ce grand frère. Sa sympathie et sa générosité. Cette grosse émission qu'on appelait Plein Sud sur RFI, qu'il a officié là-bas presque une trentaine d'années. Cette émission, c'était une émission, je pourrais dire, école et référentielle pour tout animateur. On était tellement fiers, on était tellement contents d'écouter ce monsieur depuis Paris, qui inondait toutes les capitales africaines, nous jeunes qui nous accaparons un peu de ce nouveau outil qui était un peu l'animation et la télévision et la radio, on voulait tous le ressembler. Avec cette simplicité qu'il avait, ce geste de mélancolie, son enthousiasme, mais surtout sa connaissance pour la culture africaine. Parce qu'Amobe, au-delà de sa personne, il est camerounais, d'autres même pensaient même qu'il était congolais ou même tchadien. Il n'appartenait à aucun pays. C'était ça, Amobe, entre autres, quand il animait, il pourrait sortir un mot Wolof, un mot Amina du Togo, où tu l'entendais avec un petit mot tchadien, un mot Lingala, un mot Swahili, un mot Bambara, encore un mot Bété ou Baoulé. C'était ça, Amobe, c'était l'Africain, quoi. Autant il parlait bien de Yusundu, de Mani Dibango, il parlerait bien aujourd'hui de ces jeunes artistes aujourd'hui qui ont devenu nos radios, nos télévisions. Donc c'était ça, Amobe. C'était un vrai connaisseur de cette musique africaine-là.
C'était Maury Touré, promoteur de la web radio, Radio Africa, et cofondateur du projet One avec Amobe Mévégué. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sedoudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée.